Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Parlons vrai sur Sud Radio et appelez-nous 0826 300 300 pour débattre des sujets du jour. On va revenir avec nos débatteurs sur le procès qui n'aura pas lieu dans l'affaire Sarah Halimi. On va parler aussi des commémorations de 100 000 morts de Covid. Alors ce mot commémoration, journée d'hommage, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Et puis cette préparation de sortie de crise, on en parlait il y a un instant avec notre invité, le directeur du Théâtre Mogador. Ces lieux fermés, cette réouverture à l'animé, est-ce qu'on peut encore y croire? Alors, je salue nos débatteurs du jour, Geneviève Göttinger. Bonjour Geneviève.
Bonjour Christine.
Bonjour, ravie de vous retrouver, présidente de l'agence Imagie. Jacques Miard qui est là aussi. Bonjour Jacques.
Bonjour, bonjour Christine.
Maire LR de Maison Lafitte, en studio avec nous, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Et Jean-Claude Beaujour. Bonjour Jean-Claude, bonjour. Avocat et bonjour, vice-président Christine. De France Amérique. Alors, on va débattre de vos coups de cœur et vos coups de gueule dans un instant. Je voulais juste vous poser une question, donc Emmanuel Macron se rend ce matin sur le chantier de l'incendie de Notre-Dame, enfin des travaux de, on va dire, de remise à niveau avant de démarrer la rénovation de Notre-Dame. Et le chef de l'État promet donc que tout sera terminé à la fin 2024. Est-ce que c'est une promesse qu'il peut tenir et qu'il doit tenir d'ailleurs? Parce qu'on voit aujourd'hui que c'est difficile de tenir des délais. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Miard? Je vous vois sourire.
Les promesses, ne tiennent que ceux qui les reçoivent. Je crois que c'est une erreur, d'ailleurs, de ce président de la République de toujours promettre un certain nombre de choses. On va sortir du tunnel de la pandémie à telle date. On va terminer les travaux de Notre-Dame à Notre-Dame. Il faut tout mettre en œuvre, bien sûr, pour aboutir. Mais il faut se garder, lorsque l'on est président de la République, à ne pas s'engager sur des choses qui peuvent être extrêmement aléatoires. Je crois que c'est une erreur, une faute de gouvernement.
Oui, oui, oui.
C'est une faute de gouvernement parce que il y a tellement d'impondérables et on va pas lui reprocher de dire écoutez, on met tout en œuvre et on va voir parce qu'on peut encore avoir des surprises.
Oui, oui, tout à fait. Donc cette promesse, écoutez, attention. Oui, non, Geneviève.
Oui, moi je trouve ça bien de se donner des objectifs, en tout cas dans la vie d'une manière générale, et quand on est président de la République aussi. Donc bon, il dit fin 2024, c'est plus un objectif qu'une promesse, en tout cas moi je le ressens davantage comme ça. Quel que soit le chantier que vous avez à mener, vous avez un objectif, en général toujours un peu des retards, mais c'est pas non plus obligatoire.
Des objectifs, oui, mais on se garde de se lier les pattes avec des promesses qui peuvent être totalement aléatoires.
Mais il ne se lie pas les pattes, c'est un objectif. C'est un objectif. S'il ne mettait pas de deadline, il n'y en aurait pas, et ça pourrait durer 10 ans.
Non, ça c'est bon pour les bobos. Jean-Claude, attendez, Geneviève et Jacques.
Si effectivement je partage que c'est toujours risqué en matière de construction, vous savez, quand vous commencez, vous ne savez jamais quand
vous plaisantez, Monsieur Tanner. Lisez ce film, ce livre.
Ça, c'est effectivement, c'est une règle. Je crois que là, et si je peux comprendre l'idée de Jacques Miard, mais on le connaît bien, je crois malgré tout qu'on est dans une telle sinistrose que le président de la République, il dit voilà, je vous donne un petit peu d'espoir sur ce sujet. D'ailleurs, ça sera en 2024. Vous voyez, on aura déjà bien dépassé 2022, donc on risque pas de vous reprocher tout de suite. Non, c'est surtout, j'ai le sentiment, un appui au général Georges Lain, que je connais un peu. Je sais que c'est un homme qui fonce, et je pense que c'est une façon de dire, voilà, on a une équipe au travail et puis on se fixe plus ou moins un cap. Et puis j'espère qu'on y arrivera, parce que l'idée c'est quand même que nous puissions rebénéficier de Notre-Dame et que nos très nombreux croyants puissent retrouver Notre-Dame. Pour moi, c'est ce qui est important. Ouais. Y compris les visiteurs qui viennent à Paris.
Kevin a un mot.
Oui, peu importe la date, c'est normal de se fixer des objectifs. Hein, cette tragédie...
C'est peut-être aussi pour les délais de dépassement des chantiers aussi. Hein. On peut mettre la pression sur les entreprises.
Bien sûr, parce que cette tragédie a quand même été une tragédie nationale, c'est notre identité qui a été touchée, notre âme, l'âme de la France qui a été touchée, donc il faut absolument que ce monument soit reconstruit le plus vite possible, je pense que ça nous ferait du bien, et voilà, ne rentrons pas dans des petites polémiques qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt.
Alors sans transition, non, comme on dit, avec
sur l'histoire des délais.
Oui, Jacques.
Oui, j'aurais quand même rajouté, vous savez, cette histoire, je me fixe un délai.
On va y revenir parce que là, il y a les délais de réouverture, hein, donc on y reviendra, donc gardez vos arguments.
On est tous pour réouvrir le plus rapidement possible, ça c'est évident. Et on est tous pour que Notre-Dame retrouve sa splendeur. Celui qui a fixé le premier des délais, il s'appelle Mendès France. C'était dans l'affaire de la guerre d'Indochine. Et il a dit, à telle date, je veux avoir un cessez-le-feu, etc. Eh bien, ça s'est retourné totalement contre lui. Donc, il faut se méfier de ce genre de choses parce qu'il y a des boomerangs, c'est tout. Mais sur l'objectif, oui.
Sans transition, comme on dit dans notre jargon, parce que Geneviève, votre coup de gueule concerne le voyage de Jean-Luc Mélenchon en Amérique du Sud.
Oui, je considère que c'est une faute politique, ce voyage en Amérique du Sud. On est en pleine pandémie, on sait que d'Amérique du Sud viennent des variants particulièrement inquiétants. On n'a pas le droit de se déplacer à plus de 30 km, sauf raison impérieuse. Alors, est-ce que c'est une raison impérieuse d'aller en Amérique latine ?
Ou professionnelle
en ce moment ? Ou professionnel.
Je pense autant qu'il a coché cette case-là.
Quand on est ministre, parce que je vois qu'il fait la comparaison avec les ministres, avec Franck Riester et avec Franck Riester en l'occurrence, voilà, qui s'est déplacé effectivement. Mais enfin, franchement, je trouve qu'en termes d'exemplarité, c'est un très mauvais message qu'il donne, sans en plus aucun respect des gestes barrières. Vous le voyez.
En prenant l'avion, on sait ce que pense la France insoumise des avions et des trajets. De plus de deux heures.
En même temps, pour aller en Amérique latine, il ne va pas y aller en bateau. Ça, on ne va pas lui reprocher tout et n'importe quoi non plus.
Mais il peut faire des visios s'il doit rencontrer quelqu'un. Il peut faire des visios, Geneviève aussi.
Non, mais le voir s'afficher aux côtés d'hommes politiques équatoriens, en l'occurrence, d'un certain nombre de pays, sans masque, sans distanciation sociale, alors que la classe politique doit donner l'exemple, a cet objectif d'exemplarité dans ce moment un petit peu de transition qu'on est en train de vivre entre cette période absolument catastrophique dans laquelle on est encore et puis l'espoir à partir de la mi-mai de retrouver une vie à peu près normale. Donc je trouve que c'est une vraie faute politique et un problème d'exemplarité. Voilà.
Kevin.
Oui, on retrouve l'hypocrisie de l'extrême-gauche dans toute sa splendeur, parce que M. Mélenchon, évidemment, quand c'était des repas dans des restaurants clandestins avec M. Chalençon, parce qu'étant donné que ça concernait des riches, évidemment, il est monté au créneau pour crier au scandale. Et de l'autre côté, lui se permet d'aller en Amérique latine sans respecter les gestes barrières. Et même quand il y a eu ce fameux carnaval à Marseille, qui concernait en effet des milieux plutôt populaires, évidemment, il a dit qu'il fallait laisser ces jeunes, en effet, qui s'amusaient. Donc on ressent là le deux poids deux mesures. La vérité, c'est que quand on a aspire à être un président de la République, mais au moins on donne l'exemple, on respecte les gestes barrières, ça s'appelle une conscience nationale et apparemment Jean-Luc Mélenchon en est complètement dépourvu.
Allez, on continue notre tour de table avec vous, chers débatteurs. Alors, Jean-Claude, vous voulez revenir, vous, sur la suppression, c'était le sujet de la semaine dernière, de l'ENA.
De l'ENA, je trouve qu'en cette période de Covid, où on a vu que l'État a un rôle central, un rôle protecteur pour nos concitoyens, c'est vrai que je pense que ça n'est pas une bonne chose. Ça n'est pas une bonne chose à double titre, tout d'abord en termes de message, et ça n'est pas une bonne chose parce que je pense que le vrai problème de notre société, en tout cas de notre administration, il n'est pas lié directement à l'ENA. Il est lié, il y a un problème avec les grands corps qui monopolisent un certain nombre de fonctions, il n'y a peut-être pas suffisamment d'agilité, il y a des tas de solutions qui, me semble-t-il, auraient pu être trouvées. J'ajoute que l'école attire énormément les étudiants étrangers. Vous savez que la moitié des auditeurs de l'école sont des étudiants étrangers, y compris d'ailleurs des étudiants américains qui viennent parce que nous avons une culture administrative qui force le respect. Dernier élément, on aurait pu utiliser cette école comme levier d'influence à l'étranger parce que précisément on a des étudiants étrangers. Bref, je pense que le problème, on l'a déplacé et il n'aurait pas fallu, surtout maintenant, il y a d'autres solutions. D'ailleurs, je trouve que l'inversion, l'institut d'administration, je ne sais pas si ça apportera.
Enfin, depuis que ça a été annoncé, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de gens qui soutiennent cette décision politique.
Oui, mais parce que ça fait bien, je vais vous dire. Alors, justement, vous ne m'invitez pas pour que je soutienne parce qu'il y a une majorité où je ne soutiendrai pas. Je vais vous dire, vous savez, c'est comme ces choses. Il faut faire haro sur l'élite et puis dire, ben voilà, on casse tout et puis les choses iront mieux. Je vous parie que dans 10 ans, les choses n'iront pas mieux. Je vous donne le pari si vous m'invitez dans 10 ans. Moi, c'est mon point de vue. Après, que je sois minoritaire, pourquoi pas. Et je ne suis pas énarque, je vous rassure. Je pense que nous devons trouver le moyen de renforcer notre administration, corriger un certain nombre de dérives, là encore, qui ne sont pas liées à l'école en elle-même, puisque 90% des diplômés de l'ENA font leur carrière administrative et sont de fidèles serviteurs de l'État. Vous avez effectivement un monopole sur les grands corps, ça a toujours été. Et c'est cela qu'il faut regarder, c'est la promotion d'un administration. Ce sont ces éléments qu'il faut regarder. Pas dire on casse l'école et puis tout ira mieux. Je vous parie que non.
Mmh. Allez, on va rejoindre ce débat-là. On va faire la pause du journal de l'info de 11h. On y revient sur cette question parce que je sais qu'on est tous d'un avis différent, ou en tous les cas, on veut vous entendre. 0826 300 300, avec nos débatteurs du jour, Geneviève Götzinger, Jacques Myard, Kevin Bossuet et Jean-Claude Beaujour. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Allez-vous nous appeler 0826 300 300, Sud Radio Parlons Vrai, avec nos débatteurs du jour. Jacques Myard qui est là avec nous, le maire LR de Maison Lafitte, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Kevin Bossuet qui est avec nous en studio, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, et Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France Amérique. Alors on en était au coup de cœur et au coup de gueule avec vous, Jean-Claude. Vous dénonciez le fait que, bon voilà, on avait pris le problème de la haute administration, en tous les cas de ce désamour des Français avec sa classe dirigeante, en supprimant l'ENA. Qui est d'accord ou qui comprend la décision d'Emmanuel Macron? Jacques Myard.
Non, la décision du président de la République est en réalité un écran de fumée. C'est une diversion. Le problème de l'ENA, ce n'est pas d'avoir des gens qui sont compétents, c'est qu'il faut des politiques qui commandent et qui commandent sur un projet cohérent et dans la durée. Or, effectivement, l'administration a un avantage sur des politiques qui ont tous des CDD et non pas des CDI. Et donc, à ce titre, ils peuvent varier et partir. Mais l'essentiel, c'est de savoir commander à des gens qui ont du talent et qui servent l'État avec très souvent des salaires qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient gagner dans le privé. Ça, il faut quand même aussi le dire. Et donc, c'est une erreur. C'est une erreur de tirer à boulet rouge, surtout pour remplacer...
Mais ce n'est pas la première fois qu'on tire à boulet rouge, Jacques Myard,
bien évidemment. Mais le problème, c'est de savoir qui commande. Vous savez, et personnellement, je vais vous le dire, j'ai raté l'ENA, j'en suis fier, parce que j'ai réussi le concours du Quai d'Orsay, mais il n'en demeure pas moins que lorsque je dirige la ville de Maison Lafitte, c'est l'élu qui doit commander et qui dit c'est comme ça, maintenant vous prenez vos responsabilités, etc. Et donc c'est ça, il faut que aussi la compétence des élus soit à la hauteur de leur...
Est-ce que c'est la compétence ou est-ce que c'est effectivement la courroie de transmission
Je partage ce que dit Jacques, c'est effectivement, un, le courage politique, parce que ce sont les politiques, de quelque parti qu'ils soient, à partir du moment où ils ont un mandat populaire, il faut l'assumer. Deuxièmement, il faut, mais on est probablement sur la bonne voie, savoir se consacrer et rentrer sur ses mandats, rentrer sur les dossiers, et après, ça c'est parce que là, il y a une vraie question de compétence, et donc c'est une conscience personnelle, c'est de se dire, c'est pas mon administration qui va me diriger, c'est moi qui vais diriger, et donc, je dois pouvoir être en mesure d'arbitrer. Parce que le politique, il a pour mission d'arbitrer. Et c'est cela qui n'est pas toujours faisable, parce que les politiques passent rapidement, ils n'ont pas le temps de rentrer dans les dossiers, les fonctionnaires, eux, sont là. Mais ça, c'est une question de conscience personnelle. Il faut qu'on arrête d'imaginer la politique comme des tours de passe-passe ou juste des choses qu'on prend pour... voilà, il faut se dire, j'ai un mandat, je rentre, j'y consacre du temps.
Et c'est là où le projet de modification de la Constitution pour avoir des députés qui soient là que pour 3 ans et puis raus, c'est une faute. Parce que, bien évidemment, le premier mandat du député, il arrive, il comprend. Et c'est pas une question de métier, mais c'est une question d'expérience.
Bien sûr.
Et il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non à un ministre et dire « moi, je vous demande cela ». Et un ministre doit savoir dire non à ses collaborateurs et ses directeurs d'administration centrale en lui disant « vous me dites ça, mais moi, je veux ça ». Et on a des exemples célèbres, notamment avec Monori, qui était garagiste, souvenez-vous.
Absolument.
Et pourtant, c'est lui qui a commandé.
Kevin ?
Geneviève. Oui, concernant l'ENA, à mon avis, c'est une mauvaise réponse à deux problèmes quand même qui se posent et qui sont un petit peu récurrents, celui de la déconnexion des élites, qui est une vraie question et qui leur est reprochée souvent, et d'autre part de la reproduction sociale des élites aussi. Mais est-ce que c'est en supprimant l'ENA qu'on répond à ces deux questions, pour la remplacer par un institut du service public? Non, Clairement pas. C'est une réponse qui est totalement démagogique, mais qui, à mon avis, de la part d'Emmanuel Macron, arrive à un moment pour dire, voilà, écoutez, certes, il y a la pandémie, mais j'avais promis un certain nombre de choses, et je continue d'avancer sur d'autres points. Et avancer sur la suppression de l'ENA, c'est plus facile que d'avancer sur la réforme des retraites, par exemple, vous voyez. Et c'est simplement le signal que je continue à gouverner, finalement, en prenant une décision contre laquelle personne ne va vraiment s'insurger, oui. En tout cas, dans la population.
Oui,
j'y vois une décision politique, j'ai toujours la main, je continue à faire des choses, j'avance sur une thématique qui finalement va gêner personne
dans un
victoire électoral.
En même temps, il ne le ferait pas, peut-être qu'on lui reprocherait de ne plus rien faire du tout. C'est Kafka, non, vous ne croyez pas à ça.
C'est pas, on peut gérer le problème, parce que
je prêche le faux. Hein.
On peut gérer le problème est effectivement déconnexion des élites, là aussi, on est tous
d'accord. Il y a dû avoir des donnes de rapport faits sur l'ENA, comment on modifie et comment réformer l'ENA.
Il faut passer.
C'est un sujet qui est vieux
de 20 ans, parce que déjà, Edith Cresson, de 30 ans, Cresson en 92 avait dit on va partir de la rue des Saints-Pères et puis l'école sera à Strasbourg et ils sont aujourd'hui très bien logés à Strasbourg. Et il y a eu le troisième concours qui a été ouvert aux professionnels, donc on ne peut pas dire que l'école est complètement fermée. Il y a aussi une perception, je crois que malheureusement, il y a une dizaine de pourcents d'énarques, ou peut-être même moins, peut-être que ce sont 5% d'énarques, et je pense notamment dans les grands corps. Je ne dis pas qu'ils font mal, parce qu'on a de très bons hauts fonctionnaires, mais simplement la dynamique et le rapport avec nos concitoyens et particulièrement éclaboussé. De ce point de vue, eh bien, il y a une incompréhension parce qu'on a une bonne haute fonction publique bien formée.
Sur la reproduction des élites, ça c'est très important ce que vient de dire Geneviève. Il ne faut quand même pas se leurrer. Moi je suis fils d'ouvrier, je suis désolé. J'ai réussi le concours du Quai d'Orsay et je suis monté. C'est ce qui va permettre d'améliorer le système, c'est l'école. Et ça commence dès l'école primaire. Et c'est là où les hussards de la République doivent donner à fond. Et c'est là où est l'échec. Ce n'est pas l'ENA qui est l'échec.
Absolument.
Ce qui est l'échec aujourd'hui, c'est la promotion et l'éducation et l'instruction publique des instituteurs, qui veut dire instituer, c'est-à-dire tenir debout. Et c'est là qu'on doit mettre le paquet.
Gérer nos banlieues, par exemple.
On continue parce que je vois que la pendule et l'heure passent, mais on n'a pas fini tous nos coups de cœur et coups de gueule. Jacques, justement, vous avez la parole sur ce qui se passe du côté d'Albertville.
Oui, alors, que ça soit très clair. Ce qui est en train de se passer du côté d'Albertville, il y a une décision du tribunal administratif qui enjoint à la maire de délivrer un permis. Vous savez ce que c'est que le tribunal administratif, je les connais par cœur. Là où vous allez dépasser de 5 cm, crac, il coupe. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais le problème n'est pas dans le permis de construire. Le problème, c'est de savoir si cette école va répondre aux normes
de
l'ordre public, c'est-à-dire les us et coutumes, les principes d'égalité. Or là, on peut avoir des doutes très sérieux, puisque vous savez bien que c'est une école qui est inféodée, je dirais, au FM, c'est-à-dire aux frères musulmans. Et je dis très clairement que l'idéologie des frères musulmans est directement contraire à l'ordre public français dans ce que nous avons de fort et qui forge les us et coutumes.
Mais Jacques,
donc ça doit être
là,
au préfet.
Voilà, j'allais vous dire, c'est le préfet.
Et de refuser l'ouverture.
C'est un dossier à suivre de ce côté-là, parce que je pense que l'affaire n'est pas terminée du côté d'Albertville avec l'ouverture de cette école. Kevin, coup de gueule, vous, de votre côté.
Oui, un coup de gueule contre la montée de l'antisémitisme en France. Hier, on a appris quelque chose d'effarant, puisque l'assassin de Sarah Halimi, vous savez, Sarah Halimi, c'est cette
personne... On va y revenir.
C'est cette personne de 65 ans qui a été rouée de coups, qui a été défenestrée, et au moment, par son voisin qui a crié à l'Akbar et qui a crié « J'ai tué le chétan en tuant cette pauvre dame », mais on a appris finalement que la Cour de cassation avait confirmé le caractère irresponsable de cette personne. Donc c'est évidemment scandaleux parce qu'on est là dans un crime antisémite qui ne sera jamais jugé, qui ne sera jamais puni, et je trouve que c'est profondément scandaleux. Et on constate dans notre société véritablement une montée de l'antisémitisme. Aujourd'hui en France, on peut mourir en France car on est juif. Souvenez-vous de l'attentat à Toulouse contre la fameuse école juive. Souvenons-nous d'Ilan Halimi. Souvenons-nous de Muriel Knoll. C'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Et puis même au niveau des agressions, les juifs en France, c'est un peu moins de 1% de la population. Et pourtant, c'est 1% de la population concentre 40% des agressions à caractère raciste. Donc c'est excessivement grave. Et en fait, quand on s'interroge sur les sources de l'antisémitisme, il y a deux sources. Il y a encore cette vieille source d'antisémitisme d'extrême droite, aujourd'hui incarnée par Alain Soral, qu'il faut évidemment combattre, mais il y a aussi cet antisémitisme d'extrême gauche qui est important dans une partie de la communauté musulmane, avec cet antisionisme qui n'est en fait que le fauné de l'antisémitisme et des juifs qui partent notamment de certaines banlieues. Il y a Georges Bensoussan, un historien, qui a montré que 80% des juifs de Seine-Saint-Denis sont partis de Seine-Saint-Denis par peur des agressions, et donc ils vont s'installer évidemment dans la banlieue riche de la région parisienne, mais parfois ils partent en effet de France. Il y a l'agence juive à Paris qui a montré que de 2000 à 2020, il y a 60 000 juifs qui avaient quitté la Seine-Saint-Denis pour revenir en Israël. Donc c'est quelque chose qui est honteux. Donc on est quand même 80 ans après la Shoah, 80 ans après le régime de Vichy, et la France est incapable de lutter contre l'antisémitisme. Donc c'est scandaleux. On a l'impression que finalement la France a renoncé, que la République a failli et que les juifs partent et se sentent trahis par un pays, se sentent trahis une seconde fois.
On va revenir sur le fait qu'il n'y aura pas de procès du meurtrier de Sarah Halimi. C'est la Cour de cassation qui ne fait pas du droit, qui ne fait que l'interpréter. Et donc, on va voir effectivement si cette décision... Il ne produit pas de droit.
Si elle produit la règle...
Elle produit la règle,
la règle, mais
elle
n'analyse pas. Plus les faits.
Exactement.
Plus les faits.
On va y revenir.
Si la loi était bien...
Exactement.
Je me suis permis cette
rectification. Non, mais bien sûr. On va y revenir dans un instant avec vous, les débatteurs, et également au 0826-300-300. Est-ce que effectivement, c'est une décision qui vous choque, cette décision de la Cour de cassation? On y revient en sachant aussi qu'Emmanuel Macron avait promis qu'il y aurait un procès, il fallait qu'il y ait un procès. Donc là aussi, ces paroles, est-ce qu'aujourd'hui, elles sont désavouées? On en revient sur Sud Radio dans un instant avec vous au 0826-300-300.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
0826-300-300, vous nous rejoignez ou vous nous appelez 0826-300-300 pour débattre avec Geneviève Götzinger, Jacques Myard, Kevin Bossuet et Jean-Claude Beaujour. Donc on a ouvert le premier débat sur cette décision hier de la Cour de cassation qui a donc confirmé que le discernement de Kobili Traoré était aboli au moment de son passage à l'acte en raison de sa consommation excessive de stupéfiants. Il est donc inaccessible à une sanction pénale. Il n'y aura pas donc de procès dans la mort et le meurtre atroce de cette sexagénaire d'origine juive, Sarah Halimi, qui avait été défenestrée par cet homme. C'était en avril 2017 sous l'œil de plusieurs témoins. Il avait prononcé ces mots effectivement à l'Akbar au moment de son passage à l'acte. Sept experts psychiatres se sont penchés sur ce dossier. Tous ont été unanimes. Lors du meurtre, le suspect souffrait d'une bouffée délirante aiguë. Alors cette décision de la Cour de cassation provoque une vive émotion. Est-ce que vous comprenez l'émotion, mais vous comprenez aussi que finalement la Cour de cassation analyse une procédure qu'elle n'a pas et qu'elle n'a pas à donner son avis sur le fond. Qui veut répondre?
Oui, je voudrais intervenir, Christine. Il y a deux aspects dans cette affaire-là. Je suis tout à fait d'accord avec Kevin pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une montée forte de l'antisémitisme et que nous avons notamment importé le conflit du Proche et du Moyen-Orient. C'est aussi simple que ça. Mmh. Deuxièmement, il y a un autre problème qui est celui de savoir si l'individu qui commet un acte et qui, au gré des experts, est, je dirais, fou, s'il doit y avoir procès ou non. Je pense que, quel que soit le degré de discernement de l'individu, il doit y avoir un procès pour bien montrer les tenants et les aboutissants. Donc, ce sont deux choses distinctes. Parce que malheureusement, à chaque fois que la personne est jugée folle, il n'y a pas de procès. Et là, les victimes demandent qu'il y ait un procès parce qu'il a un côté cathartique, une nécessité de faire la lumière, en toute lumière. Ce qui ne veut pas dire que l'individu ne sera condamné parce que justement il est fou, mais il faut y avoir procès. Et c'est là-dessus que la loi doit changer, de telle manière que, quel que soit le degré de discernement, il y ait procès.
Oui, moi je pense qu'effectivement on entend parfaitement, et vous savez, quelles que soient les branches du droit, que ce soit en matière pénale, que ce soit dans des contentieux commerciaux, les parties ont besoin d'être entendues. et ont leur droit d'être entendues.
Quelle
que soit l'affaire, on leur doit. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de savoir ce qui s'est passé, elles ont besoin de connaître les tenants et les aboutissants du dossier, elles ont besoin de connaître les versions des uns et des autres. Dans une situation aussi dramatique où moi je connais très bien le 11e, je connais très bien Belleville et j'ai eu à être militant dans ces quartiers. Ce sont les quartiers où les gens mettent beaucoup à vivre ensemble. Ils mettent beaucoup à vivre ensemble. Moi, je connais bien les synagogues de la rue de Belleville, etc. Il y a une vraie volonté de demeurer. Donc, il faut faire ce qu'il faut. S'il faut faire évoluer notre législation pour qu'effectivement, nos concitoyens, d'ailleurs, quel que soit l'incident, n'aient pas le sentiment qu'ils sont abandonnés parce qu'on ne peut pas faire qu'un cours de droit dans ce type de situation. Moi, je comprends les arguments de mon confrère Spinozzi, mais il faut aussi se mettre à côté de nos concitoyens qui ont besoin d'avoir un sentiment de justice. Et attention, je ne suis en train de tomber dans la démagogie, c'est que nos concitoyens ont à un moment besoin, non pas qu'on leur dise des textes, parce que ça, on comprend ça, et quand on n'est pas concerné de manière très abstraite, je pourrais vous faire un cours de droit en vous expliquant pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de procès, mais ça n'est pas cela. On a besoin d'avoir
c'est
effectivement...
C'est pourtant ce que souhaite Éric Dupond-Moretti, c'est d'expliquer mieux le fonctionnement de la justice les citoyens de leur justice.
Oui, mais il n'y a pas qu'une explication. La justice, c'est probablement le dernier rempart auquel croient nos concitoyens. Vous savez, le paradoxe, c'est ça aussi le paradoxe de la situation d'aujourd'hui. C'est que vous avez vu nos concitoyens ont tendance à moins croire aux politiques, ils croient moins en un certain... Oui. Et pourtant, ils disent, la justice, ils s'en remettent à la justice. Et c'est là où nous devons faire un effort pour donner le sentiment que cette justice s'exerce pour qu'il n'y ait pas la justice de rue. Attention, mon propos n'est pas démagogique. Quand je parle de sentiment de justice, c'est qu'ils doivent avoir le sentiment de l'impression d'être prise en charge par la justice.
La confiance dans la justice est mitigée aujourd'hui.
Hein. Ouais. Geneviève, on ne vous a pas entendu.
Bah, écoutez, moi j'ai quand même le sentiment que cette dame, cette malheureuse Sarah Halimi, a été assassinée deux fois. Hein. Elle a été assassinée une première fois par...
Très bonne réforme.
Par ce monstre qu'il a effectivement assassinée parce qu'elle était juive. Hein, très, très clairement, et là-dessus, il est peut-être irresponsable pénalement, mais enfin, la réalité de l'assassinat, c'est ça. Il l'a assassiné en la traitant de démon, il l'a assassiné en récitant des versets du Coran, en criant à la Akbar, en la jetant dans le vide ensuite. Enfin, bon, juste l'acte lui-même est monstrueux. Cet acte, effectivement, ne sera jamais jugé parce qu'il est irresponsable pénalement. Mmh. Alors là, se pose quand même, bon, il y a un avocat donc il va pouvoir répondre à ça, mais. Est-ce que la Cour ne doit quand même pas s'intéresser aux causes de l'abolition de ce discernement chez cet homme ? Parce que s'il n'avait plus ce discernement, c'est parce qu'il avait lui-même ingéré des substances qui le privaient de ce discernement.
Qu'est-ce qu'on peut répondre ?
Il est responsable de sa propre absence de discernement.
Alors,
est-ce que ça ne devrait quand même pas changer ?
C'est la question qui se pose. Geneviève pose une question que beaucoup de gens se posent.
Alors, évidemment, je suis pas l'avocat des partis, et donc parfois il faut aller dans le dossier. Mais sur le principe, on parle vraiment de principe. Je pense que à partir du moment où vous demandez à la Cour, j'imagine que c'est son raisonnement, la Cour a dû se dire mon travail n'est pas de dire s'il est responsable ou pas de son manque de discernement.
Il avait déjà donc des problèmes psy et ce qu'il a consommé visiblement, c'est ce qu'ont dit les experts.
La Cour se dit, je ne juge pas les faits, mais je pense, hein, elle fait ce raisonnement, les faits sont figés devant la Cour de cassation.
D'accord.
Je regarde simplement si la motivation de la cour d'appel et la motivation en appel...
Il y a erreur de droit.
Voilà. Donc, on regarde des vices de procédure. Il regarde des vices de procédure. Il y a 16, je n'irai pas dans le détail, mais vous avez quelques points comme ça qui sont vus par la cour de cassation. C'est pour ça que je dis qu'il faut à un moment donné que la justice se dise et que notre corpus législatif nous permette d'aller plus loin et de dire, dans ce type de cas...
C'est la raison pour laquelle, cher ami, il faut modifier la loi sur ce point. Discernement ou irresponsabilité, le procès doit avoir lieu. Il doit avoir lieu, bien évidemment, dans des conditions qui font que l'individu ne sera peut-être pas là, mais il faut que les parties, comme vous l'avez dit, soient entendues. Il faut modifier la loi sur ce point.
quel que soit le degré. Kevin, on vous a pas entendu.
Oui, moi je crois qu'il faut quand même rappeler l'horreur de ce crime. Enfin, c'est une femme qui a été torturée, c'est une femme qui a été tabassée. À chaque fois que cet individu lui tapait au niveau du visage, il y a un os qui se brisait, elle a été défenestrée. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il fallait un procès par respect pour la victime, par respect pour la famille, par respect également pour le peuple français. Je suis désolé, mais la justice se rend au nom du peuple français et ne se rend pas contre le peuple français. Et le problème dans cette affaire, c'est qu'en effet, il est reconnu partiellement irresponsable, ce qui fait que cet individu peut être libéré. Et la justice, elle est là pour aussi pour protéger la population. Et si cet individu est libéré, finalement, est-ce qu'il ne peut pas recommencer? Parce que j'aimerais bien aussi mettre en avant le fait que c'est quelqu'un qui croule sous les condamnations judiciaires. Il y a eu 22 condamnations judiciaires. Donc, à un moment, on a affaire à un crime antisémite. Il est inacceptable que dans ce pays, on ne juge pas ce crime. C'est Sarah Halimi qu'on tue une seconde fois.
Juste précisons, il est actuellement, il n'est pas en liberté, il est en
hôpital. Oui,
Attendez, vous allez un peu vite là.
Juste une chose, je pense qu'effectivement, parce que c'est un crime odieux, parce qu'aucun autour de cette table ne soutient, ou même moralement, ou même psychologiquement, ce type de démarche. Nous ne pouvons pas faire une législation, nous ne pouvons pas faire une législation, ou en tout cas, sur un cas, c'est effectivement, il nous faut la loi a un caractère général et absolu. Et c'est là où nous devons prendre de la distance pour dire, dans tous les types de situations, et là où je suis complètement d'accord, et je dis qu'il faut, les victimes ont toujours besoin d'être écoutées. Et c'est ce que nous devons revoir, et pas nécessairement, ça n'est pas, bien sûr, le crime est horrible, mais on ne peut pas faire une législation parce que ce crime-là a été horrible. C'est là où il faut qu'on garde un peu de distance pour précisément imposer un corpus qui soit un corpus qui vaille pour l'ensemble, parce qu'il n'y a aucune situation de ce type qui serait jugée humainement acceptable.
Voilà, il est bientôt 11h30 sur Sud Radio. On va changer de sujet juste après la pause. On va s'intéresser avec vous, chers débatteurs, de l'idée de faire une journée de commémoration ou d'hommage aux victimes du coronavirus. Bientôt 100 000 morts, des comptes macabres, moi je trouve, en France. Et certains émettent cette idée-là. Est-ce que vous êtes de cet avis? 0826 300 300. Vous nous appelez et on en débat dans un instant, juste après la pause. À tout de suite.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
0826 300 300 pour rejoindre et débattre avec nos débatteurs du jour, Geneviève Götzinger, Jacques Mien, Kevin Bossuet et Jean-Claude Beaujour. Alors, on ouvre cette discussion autour de l'idée émise par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, de cette journée d'hommage, journée de deuil pour la nation, parce que nous approchons, certains disent même qu'on les a déjà dépassés, cette barre des 100 000 victime du coronavirus, de la maladie, selon l'Agence de sécurité sanitaire Santé publique France. Ce sont 100 000 familles endeuillées, a-t-il dit, précisant que le chef de l'État avait déjà eu l'occasion d'en parler lors des conseils des ministres, mais sans fournir de date ou de modalité sur un éventuel hommage national. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'était la question également qui était posée ce matin à nos auditeurs sur Sud Radio. Beaucoup étaient effectivement un petit peu circonspects sur la teneur de cette journée. Geneviève, vous en pensez quoi? Ça sert à quelque chose? On est dans l'émotion pure, mais qui ne fait pas...
Je suis partagée. Je pense que toute cette période, on va sortir les uns et les autres quand même profondément ébranlés. Et le fait qu'il y ait un moment de recueillement national, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Moi, je garde quand même très profondément en mémoire toute l'année dernière où vous aviez ces images terribles de personnes qui mouraient absolument seules, mais seules, sans le contact avec leurs proches, leur famille, ces enterrements en comité extrêmement restreint, le fait d'avoir parfois vu mourir ou laisser mourir des proches sans qu'ils soient près de vous. Et je pense qu'il y a quand même un phénomène national d'émotion collective et de douleur collective. Et la partager dans un moment de recueillement en commun, ça ne me semble pas si stupide.
Kevin?
Écoutez, moi je trouve ça complètement débile. On est là dans la communication, dans le macronisme, dans toute sa laideur, où en effet, on fait de la communication pour avoir le sentiment finalement que l'on agit. Enfin, je trouve qu'il y a
vous
quand même...
Vous pensez qu'il n'y a pas du tout une notion d'hommage?
C'est trop tôt. C'est trop tôt. Si on était à la fin, en effet, de la crise épidémique, en effet, on peut se dire, on a lutté contre cette crise, on a fourni tant d'efforts qu'à la fin, on peut évidemment construire, par exemple, un monument pour rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés ou pour rendre hommage à tous ces morts. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. On arrive à un moment où les Français n'en peuvent plus, où les Français sont complètement hystérisés avec d'un côté un vaccin dont on a de moins en moins confiance et de l'autre, en effet, des restrictions qui sont de plus en plus pénibles à vivre. Donc ce n'était évidemment pas le moment. On a besoin d'un chef de guerre, sauf qu'un chef de guerre ne commémore pas les victimes avant que la guerre soit finie. Donc on est ici dans de la communication. Moi, je trouve ça complètement stupide et au lieu de nous mobiliser, au lieu finalement de nous dire il faut encore faire un effort, il est là en train de nous démobiliser et je trouve ça, mais franchement, pathétique.
Bon, pour l'instant, rien n'est arrêté, hein. Je le précise. Jacques Myard, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'élu?
Écoutez, malheureusement, je connais quelques amis qui sont morts et des gens qui étaient assez jeunes. Et donc, bien évidemment, j'ai été touché et j'ai exprimé toute l'émotion à cette occasion. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, le pays traverse un problème de déprime. Et que ce qui est nécessaire, c'est de ne pas, je dirais, dire on va commémorer les morts, la belle affaire. Il faut surtout prendre toutes les mesures pour passer cette étape difficile. Et donc, il faut que le gouvernement, à la limite, je veux dire, vaccinons, vaccinons, vaccinons. Et tendons tous nos muscles et toute notre volonté vers cette nécessité. On verra après. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est que je ne crois pas qu'on puisse pallier aujourd'hui les difficultés et notamment la forte impression de déprime que nos concitoyens traversent par ce genre de proposition. Je crois qu'au contraire, ça ne fait qu'ajouter à la déprime.
Oui, moi vous savez, j'ai perdu une amie dont enfin, de nombreux amis dont la plus jeune n'avait que 49 ans. Donc ça vous interpelle et évidemment la famille et les amis sont dans la douleur et c'est difficile.
Est-ce que vous savez si ces familles sont sensibles à cette notion d'un hommage national?
Non, en fait, ce qui s'est produit au moment des différents funérailles, c'est que les jauges et les contraintes faisaient qu'on était très peu et que les uns et les autres, en fonction des funérailles, très peu de gens étaient invités. C'est le fait de se retrouver un petit peu isolé qui fait que parce que c'est vrai qu'un enterrement, c'est toujours l'occasion. Un enterrement, c'est un départ définitif, mais c'est aussi l'occasion de réunir, c'est aussi l'occasion de mobiliser.
Faire son deuil.
Tous ceux et celles qui ont connu le défunt. Donc, c'est vrai que ne pas pouvoir avoir ce moment de communion, au sens large du terme, ne pas pouvoir avoir ce moment, c'est extrêmement marquant. Moi, je pense que le moment de la réflexion, le moment du recueillement viendra, mais effectivement, aujourd'hui, je pense que le temps n'est pas encore venu parce que nous n'en avons pas terminé
c'est trop tôt.
Nous n'en avons pas terminé. Et je pense que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Moi, je reste convaincu qu'il faut faire deux choses. Évidemment, vacciner, c'est le point central. Se préparer à la sortie. Et se préparer à la sortie, ce ne sont pas simplement des dates, c'est s'organiser pour la vie de demain. Parce que nous avons des petits commerçants. Vous aviez précédemment un homme du monde de la culture. C'est aider les uns et les autres à repartir, à revivre. Mmh. Parce que là aussi, on est dans une forme de léthargie. Nous ne sommes pas complètement morts, parce que Dieu merci, nous sommes vivants. Mais en même temps, on vit quelque chose d'assez bizarre parce qu'on est enterré.
Est-ce que vous comprenez les arguments de certains qui disent que les victimes du Covid ne sont pas morts pour la France, ne sont pas morts dans l'exercice de leur... et donc au service de la collectivité, comme on peut l'imaginer. Est-ce que vous comprenez ces argumentaires-là?
C'est malheureusement le cas. Tout à l'heure, Geneviève disait qu'ils sont morts seuls, c'est vrai, et qu'ils n'ont pas été entourés de leurs proches, c'est vrai. Mais je dirais, malheureusement... on est frappé par une pandémie et c'est ainsi. Est-ce qu'on a commémoré, est-ce qu'on a célébré les morts de la grippe espagnole? Non.
Voilà. Ou du sida.
Ou du sida, non. Donc, il y a des fêtes, on subit malheureusement cela. Je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt mobiliser les esprits vers la nécessité de traverser cette période de déprime. Parce que cette déprime, moi, je la vois partout, quel que soit l'âge, quel que soit le statut des gens. Et c'est ça, il faut se battre et de dire, nous tenons bon. Mmh. Ce n'est pas en disant, on va commémorer les morts qu'on va les mobiliser, ce n'est pas vrai.
Oui, mais enfin, alors, encore une fois, Cette dimension du deuil qui permet ensuite de passer à autre chose, c'est important sur le plan individuel, c'est important sur le plan familial, mais ça peut être important aussi sur le plan national. Donc, tout est ce qu'on met dans le mot j'aime pas le mot commémoration, et évidemment, les personnes qui sont mortes ne sont pas mortes pour la France. On est d'accord, on est dans une guerre, mais pas dans cette guerre-là. Bon, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je me demande simplement si en termes de catharsis, ça n'aurait pas. Ça ne permettrait pas d'arriver à surmonter collectivement quelque chose qui a été individuellement et collectivement.
Oui, mais un moment de recueillement.
Même si ce n'est pas encore, terminé. On est d'accord. Alors, il ne s'agit pas forcément de la commémoration. Ça peut être une communion nationale. Pouvoir voir le mot qui est employé et pouvoir les contours qu'on donne à ça.
Oui, mais
Jean-Claude.
Recueillement collectif. Ça me semble pas absurde.
Voilà. Oui, mais je pense que le recueillement, parce que ça serait plus du recueillement, un recueillement national qu'une commémoration. Je pense qu'un recueillement national ne peut venir qu'à un moment donné et en lien avec quelque chose de bien spécifique. Vous voyez, on peut pas juste dire, mais voilà, on va prendre telle date. On serait à la fin de la gestion de ce coronavirus et en se disant, voilà, on est arrivé à battre, donc on va avoir un moment de recueillement national pour dire, voilà, ça. Et puis aussi, il faut que ce soit un moment, une situation où on va aussi tirer enseignement de ce qui s'est passé.
Voilà.
Tirer enseignement pour le... Oui, pardon. Oui. Pardon, Jacques.
Oui, je voulais juste dire une chose. Il y a quelque chose qui me gêne actuellement dans le pays. C'est cette volonté à longueur de temps de célébrer ci, de repentance et autres. Ras-le-bol. Il y a un moment, on regarde l'avenir et on y va. Et donc, c'est pas comme ça qu'on mobilise le pays en rappelant toujours, je dirais, des faits que l'on a subis. Il faut mobiliser les esprits et, on n'est pas dans des actes, parce que ça ressemble, Geneviève, un peu à des actes de repentance. On se bat la coupe, on communie, mais on est peut-être coupable également de ce qui s'est passé. Collectivement, il est clair qu'on a subi un drame et qu'il faut maintenant aller de l'avant.
Et puis en termes de politique publique, je pense qu'il est important, puisqu'on parlait tout à l'heure de la haute administration, on parlait des politiques, etc. En termes de politique publique, il faut qu'on se dise, voilà, on a subi, il y a eu un grand choc, que faisons-nous pour l'avenir? Parce que pourrions très bien voir demain un autre sinistre
sanitaire. Vous risquez peut-être d'avoir des commentaires de gens qui vous disent, vous balayez tous ces morts,
Attendez, je viens de vous dire que j'ai perdu de nombreux amis brutalement et que ce n'étaient pas des gens très âgés. Donc je comprends, mais la question pour moi, me semble-t-il, et je comprends les décès, il faut que ça ait du sens, et que ça ait du sens parce que y a les morts et puis il y a tous ceux qui vous disent qu'ils souffrent. Donc je dis qu'il faut qu'on se dise à un moment donné, il va y avoir un moment de réflexion nationale, un moment de communion nationale, et bien à ce moment-là on se dira, voilà ce qu'on a appris. On ne veut plus de cela, et voilà ce qu'on décide de faire pour l'avenir.
Kevin.
Non, mais les Français ont besoin d'espoir, ils ont besoin d'espérance, ils ont besoin d'une ligne directrice. Comment va la vaccination? Comment on va intensifier ce processus? Ils ont besoin également de dates de rouverture. Quand on va revivre comme avant? C'est quelque chose qui est important. On a besoin d'espoir, et on est en plein milieu de la guerre. Clémenceau, lors de la Première Guerre mondiale, il n'a pas commémoré les victimes en plein milieu de la guerre. Simplement, en 1917, c'était un peu tendu. Il a fait toutes les tranchées de la Première Guerre mondiale, justement, pour encourager les soldats. Donc, Emmanuel Macron se voit en chef de guerre alors que là, il est en train de chouigner dans son petit coin et il veut qu'on fasse la même chose. Ce n'est pas ça un président de la République. Un président de la République, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est une ligne directrice et c'est quelqu'un qui nous donne de l'espoir et de l'espérance.
Bon, on va ouvrir justement la page la préparation de la sortie de crise puisque, vous le savez, aujourd'hui, il y a une réunion en visioconférence avec une quinzaine de maires, des réunions aussi avec différents ministres pour préparer cette échéance de la mi-mai. Est-ce que ça va être un délai qui pourra être tenu? Est-ce que cette promesse, effectivement, est un piège aussi pour Emmanuel Macron et le gouvernement? On verra aussi la question des, si on a le temps, de ces précommandes qui ont été faites, notamment de vaccins russes, notamment par le président de la région Sud, Renaud Muselier. Est-ce une bonne idée? On peut se poser la question aussi autour d'un vaccin qui, pour l'instant, n'a pas reçu le feu vert des autorités sanitaires. Allez, cette réouverture à la mi-mai, c'est-à-dire dans un mois, est-ce que vous y croyez? Vous nous appelez au 0826-300. Jean-Claude.
J'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau.
On va faire la pause.
On ne peut pas, c'est pas un pari, parce que derrière, il y a des gens qui doivent s'organiser. On ne peut pas simplement dire, c'est peut-être mi-mai, puis ça sera peut-être après. Donc, moi, je suis très réservé sur la mi-mai, parce que c'est dans trois semaines, en réalité, et que pour toutes nos petites entreprises, ça s'organise et le délai est un peu court.
On va voir ça, justement, avec vous, et vous nous appelez 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Allez, Emmanuel Macron qui prépare la sortie de crise. Est-ce que vous y croyez, cette réouverture mi-mai, dans un petit mois, 0826-300-300, on a du mal à y croire, mais pourquoi pas, puisqu'on a appris par exemple hier que la Belgique, le 8 mai, allait réouvrir les terrasses de ses bars et de ses restaurants, donc c'est pas très loin de nous, ça commence à bouger un peu. Alors on en débat avec Geneviève Götzinger, Jacques Myard, Kevin Bossuet, Jean-Claude Beaujour. Alors je vous dis ça parce qu'aujourd'hui il y a une visioconférence. Vous n'êtes pas dans la visioconférence avec Emmanuel Macron, Jacques Myard?
Non, vous savez, je le connais bien. Il faut que vous sachiez que j'ai siégé à côté de lui à l'Assemblée nationale lorsqu'il était ministre de Hollande, et c'était un gouvernement pétorique qui piquait parfois des places de l'opposition. Et donc, je me suis retrouvé à côté de lui. Le connais par cœur. Je sais très bien que c'est...
Alors, pourquoi il consulte les maires pour cette question de réouverture? Dites-nous tout.
Il a eu un boomerang assez sérieux où il s'est fait chahuter sérieusement au Congrès des maires, et il a enfin compris ce que c'était que des maires et qu'on ne pouvait pas gouverner tel Jupiter qui s'approche de la roche tarpéienne.
Alors, je vais vous faire sourire, parce que dans le communiqué officiel qui a été donné sur l'explication de cette visioconférence avec une quinzaine de maires qui sont représentatifs, je mets ça c'est ce qui est donné, représentatifs des territoires et des sensibilités politiques.
Très bien, très bien. Mais moi, vous savez, il y a longtemps que je n'ai plus confiance dans ce président, alors ce n'est pas la peine d'insister.
Bon.
Ce qui est certain...
Là, en revanche, il donne de l'espoir, il maintient sa décision de préparer une ouverture mi-mai.
Si on peut réouvrir au mois de mai, je serai le premier d'applaudir et le premier à faire la nouba, comme on disait.
Bamboche.
La bamboche, tout ce que vous voulez, la fête, etc.
On fait la fête à Sud Radio.
Et on s'y préparera, mais il n'en demeure pas moins qu'il le faut avancer pas à pas. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Muselier qui a acheté des vaccins...
Précommandés.
Oui, précommandés. Il a raison. Simplement, bien évidemment, il va falloir qu'il soit produit, parce que visiblement, aujourd'hui, la production russe n'est pas à la hauteur. Et bien évidemment, il faut qu'il ait l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments.
Oui.
Mais il a raison de s'y prendre à l'avance, comme le fait l'Allemagne, comme le fait déjà la Hongrie qui, elle, est passée à l'acte. Donc, il ne faut pas, je dirais, de se dire, et vous savez qu'en ce qui concerne Sputnik, il a été qualifié, selon Lancet, d'un des meilleurs vaccins existants.
Alors, je vous recommande dans le Figaro quand même un petit papier qui m'a alerté ce matin sur le vaccin Sputnik V, où visiblement la mésaventure de la Slovaquie font peser des doutes sur le vaccin russe, parce que de plus en plus de vaccins vont être disponibles dans les mois à venir, mais ils s'interrogent, et c'est le ministre de la Santé slovaque qui dit ça, il dit le problème c'est que les doses que l'on a reçues ne correspondent pas aux critères sanitaires qu'on nous avait promis. Donc visiblement... Pour tous les vaccins, visiblement, c'est pas si limpide que ça. Mais dans l'idée de dire, on ouvre à la mi-mai et on commence à y travailler, parce que tout à l'heure, on était avec le directeur du Théâtre Mogador, il dit, nous, on a besoin d'avoir un échéancier pour s'y préparer.
Bien sûr.
Hein ?
C'est là où, vous voyez, je fais le lien avec notre remarque tout à l'heure, pour que la parole publique ait du sens...
Mais est-ce qu'il y peut quelque chose? Les données sanitaires ne sont pas bonnes. Attendez,
il y a deux choses. Parce que ça c'est arrivé à plusieurs reprises. Pour que la parole publique ait du sens, qu'elle soit comprise et qu'elle soit crédible, et qu'on n'ait pas simplement l'impression que c'est un pari... L'objectif du président, on ne peut que saluer l'objectif, c'est d'ouvrir le 15 mai. Dans ces conditions, on ouvre quoi? Qui fait quoi? Et est-ce qu'on est sûr que derrière, les experts, l'administration, en termes de logistique, en termes opérationnels, ça a été pensé comme tel? Parce que ce à quoi on a assisté depuis quelques mois, c'est qu'une décision est prise et on se rend compte derrière que la logistique n'est pas prévue, le caractère opérationnel mis en œuvre. C'est simple. Le caractère opérationnel n'a pas été complètement ficelé. Donc, on rétropédale. Mmh. Et donc, j'espère qu'on ne va pas rétropédaler une fois. Alors, j'ai bien compris qu'on ne va pas tout ouvrir. Je pense qu'il faut entendre qu'on ne va pas tout ouvrir d'un seul coup le 15 mai. Mais c'est étape par étape. Mais quelle que soit l'étape, j'espère que derrière...
Ça peut se prévoir, Jean-Claude.
Oui.
Ça peut se prévoir très facilement.
Bien
et
sûr.
Et ensuite, si c'est décalé, ce sera décalé. Mais je crois qu'il faut penser effectivement la réouverture, il faut l'organiser, il faut dire quelles vont être les mesures qu'on va continuer d'appliquer.
Absolument.
Et on avance petit à petit. Maintenant, est-ce que ce sera le 8 mai, est-ce que ce sera le 15 mai? Eh bien, on verra.
Ce sera le 8 mai en Belgique. Donc, nos amis belges auront
oui.
fait 5 semaines d'avance.
Il va y avoir il va y avoir du monde dans les trains pour la Belgique aux alentours du 8 mai.
Hein. Oui, mais on sera peut-être pas autorisé à plus de 30 km. N'oubliez pas qu'on conserve nos 30 km
jusqu'à
10 km.
Jusqu'à fin avril.
Attendez, on s'y perd
moi,
maintenant.
Moi, je crois que le texte, c'est Monsieur au maire. Moins pour 4 semaines. Moi,
j'avais compris jusqu'au 26. Hein.
Ah, oui. Moi, j'ai compris ça aussi. Mais il faut regarder
l'arrêté,
le texte.
L'arrêté et le décret, c'est jusqu'à la fin du mois. Et il est clair que s'il faut le recontinuer, bah, à mon avis, on aura droit à un nouveau décret.
Non, oui, mais c'est possible ça, c'est que ça soit reconduit pour 15 jours. Mais enfin bon, là, on est quand même dans un contexte où le taux d'incidence baisse quand même. Le fameux R, je ne sais pas quoi, est passé sous la barre des 1. On vaccine, on s'est enfin mis à vacciner, réellement. Donc, on a enfin des perspectives. Donc, se donner comme objectif la date du 15 mai en la travaillant, enfin, on est le 15 avril, hein, donc c'est dans un mois. Donc, ça laisse quand même le temps de la travailler secteur par secteur et que la logistique, bien évidemment, doit suivre. Voilà, donc évidemment, la réunion de ce jour, d'après ce que j'ai compris, n'est pas conclusive et les décisions prises sont forcément évolutives en fonction des chiffres. Mais on est quand même dans une dynamique qui peut nous permettre d'espérer rouvrir un certain nombre de choses le 15 mai. Mmh. Et comme le disait Jacques Myard tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une désespérance, une déprime collective. Et donner aujourd'hui aux Français cette perspective, aux Français qui eux-mêmes vont pouvoir retourner dans les magasins, aller au restaurant, etc., etc., mais aussi à tous les professionnels de ces différents secteurs des perspectives, c'est aussi leur permettre de s'organiser et
oui,
d'arriver
mais
à
attention à la date.
Une forme de sinistre.
Oui, d'engagement alors... trop précis.
Oui,
oui, mais pas d'engagement trop précis.
Trop précis parce qu'effectivement, il y a des désillusions. Vous parliez de l'effet boomerang tout à l'heure, hein, Jacques Myard. Kevin.
C'est ça, oui.
Vous savez,
je vais raconter, je la raconte encore, je l'ai raconté hier. C'est, ça se passe à Moscou. Il y a le camarade Eltsine qui dit, Tavaritch, on voit le bout du tunnel. Et à ce moment-là, il y a un gars dans la salle qui voit la télé qui dit, oui, Tavaritch Eltsine, c'est pas le bout du tunnel, c'est le train qui vient d'en face.
Kevin.
Oui, le quinquennat d'Emmanuel Macron sera quand même marqué par le discrédit de la parole publique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que depuis un an, il nous promet beaucoup de choses, sauf que nos espérances, nos espoirs sont toujours déçus. Regardez sur la vaccination des enseignants. Jean-Michel Blanquer nous racontait, notamment au mois de janvier, qu'on allait vacciner les enseignants de manière très rapide, le plus vite possible, notamment au mois de mars. Au mois de mars, M. Véran nous raconte qu'il n'y aura aucune priorisation en fonction des métiers, mais il y aura une priorisation en fonction de l'âge. Et puis finalement, Emmanuel Macron nous dit au mois d'avril que les enseignants devront être vaccinés assez rapidement. Et puis, on se rend compte que finalement, Emmanuel Macron se déjuge et que les enseignants seront vaccinés quand ? À la mi-juin et donc recevront leur deuxième dose pendant les grandes vacances, ce qui est complètement débile. Donc, ce discrédit, il est quand même très important. Et puis, sur la ouverture, on leur promet toujours des choses aux restaurateurs. Ils se préparent, pareil. L'espoir est toujours déçu. Et surtout, dans quelles conditions on va rouvrir ? Parce que si on rouvre avec des jauges à 50%, finalement, ce n'est pas rentable. C'est beaucoup mieux pour ces restaurateurs, en effet, de rester fermés et de recevoir des aides.
Alors, ils sont partagés quand même là-dessus, Kevin. Hein. Ils sont très partagés sur la façon de réouvrir. Il y en a beaucoup qui demandent. Alors, il y a un vrai défi, j'entendais aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez ce matin sur la réouverture, sur cette programmation, on va dire, des établissements, de la part du représentant des professionnels des cafés et restaurants, en disant on a besoin aussi d'avoir des dates parce qu'il faut qu'on fasse revenir aussi nos équipes et qu'on les prévienne et qu'on les prépare finalement à retravailler. Donc, il y a un vrai défi.
Les modalités pratiques iront très, très vite.
Ouais.
Je ne suis pas inquiet là-dessus.
C'est vrai.
Je ne suis pas inquiet ainsi. C'est les conditions sanitaires qui commanderont. Et je suis convaincu que la reprise économique se fera très, très rapidement.
Alors, vous avez vu en Israël, il y a un mois et demi d'attente pour avoir une place au restaurant. Un mois et demi d'attente.
Commandé.
Voilà.
Bon, bah, donc bah, on va réserver nos places pour
septembre. On va réserver tout de suite
pour septembre. On va réserver.
Alors, autre point aussi, est-ce que cette crise sanitaire, il y a un sondage ELAB qui a été publié hier, si je ne me trompe pas, qui parle de cette crise sanitaire et de ses effets sur la présidentielle. Et la gestion de cette crise, finalement, arrive en neuvième position dans les intentions de ce que les Français auront envie de voter, en tous les cas, dans leurs préoccupations. La première des préoccupations, disent-ils aujourd'hui, attention, hein, ce sont les questions d'ordre d'emploi, économique et social et de sécurité. La question de la gestion de la crise n'arrive qu'en neuvième position. Est-ce que vous êtes surpris par ça ?
Non, mais en même temps, derrière la crise arrive en neuvième position, mais la crise a un impact sur l'emploi, a un impact sur le fonctionnement économique. Donc on voit bien que
il y a
un effet induit de cette gestion sanitaire. Il est évident que, et on ne peut que souhaiter pour chacun d'entre nous que les choses repartent le plus rapidement possible. Et si ça repart le plus rapidement possible, si ça repart, donc ça va atténuer les risques de chômage, etc. Ça n'aura pas le même impact sur la présidentielle que si on constatait qu'en septembre, en octobre, les choses étaient au ralenti, indépendamment de la crise. Je pense qu'effectivement, et d'ailleurs, vous avez indiqué que j'étais vice-président de France-Amérique, aux États-Unis par exemple, en tant que telle, la crise, la gestion de la crise n'a pas été un élément, mais ce qui compte, c'est l'économie d'emploi, c'est selon que les gens ont du boulot ou n'ont pas de boulot ou sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas payer leur facture hospitalière, mais c'est ça qui peut avoir un impact ou non directement sur le scrutin.
Ouais, Kevin.
Oui, il y a une lassitude vis-à-vis de cette crise et évidemment on a envie de passer à autre chose, donc c'est vrai que dans l'ordre des priorités, peut-être qu'on met ça de côté, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui vont être au cœur des débats de la présidentielle qui sont liées à cette crise. Je pense au problème de la souveraineté. On a quand même vu en effet que notre pays, qui est la 7e puissance mondiale, était complètement défaite. Il y a un véritable déclassement. Regardez, on n'a pas été capable dans le pays de Pasteur de créer notre propre vaccin. On n'est pas capable en effet de le produire. On est juste capable de faire du flaconnage, mais ça doit quand même nous interroger sur notre capacité et sur notre avenir. Et puis, il y a aussi des questions dans la société française. Il n'y a pas quand même que la question de la gestion de la crise. Il y a la question de l'insécurité, il y a la question de l'identité, il y a la question de l'islamisme, en effet, qui tiraille de plus en plus des Français. Donc, je pense, en effet, que la présidentielle de 2022 va être très tendue parce qu'on va avoir une juxtaposition de thèmes qui risque de faire très mal dans la société française et de la fracturer encore un peu plus.
Il ne faut pas qu'il y ait la quatrième vague. Geneviève, hein.
La crise a effectivement a dévoilé des fragilités de notre pays, très clairement, des modes de fonctionnement aussi, une bureaucratie, un certain nombre de choses qui risquent d'être au cœur du débat public pendant la présidentielle.
Ouais, ouais,
donc, même si elle est en neuvième position, effectivement, l'impact, les effets induits, comme le disait Jean-Claude Saoui, et puis ce que ça a dévoilé de nous-mêmes, les fragilités que ça a révélées. Donc l'économie du débat autour de ça.
Jacques.
Ne jamais oublier que les fragilités que vous dénoncez à juste titre sont la conséquence d'une politique budgétaire imposée par la purge budgétaire et que la notion de service public était un gros mot. Et donc, il faut reprendre ça parce qu'effectivement, il va y avoir un problème de souveraineté, un problème de politique industrielle. Le tout concurrence n'est pas une réponse à la nation et c'est là où effectivement il y a une revisitation totale de la politique économique que nous devons conduire. C'est une question de souveraineté, c'est une question de politique industrielle, c'est une question de maîtrise de notre destin. Et M. Macron, qui a fait un virage à 180 degrés n'est pas crédible.
Allez, c'est sur ces mots qu'on referme cette émission. Merci à tous les quatre, Jacques Myard, Geneviève Götzinger, Kevin Bossuet et Jean-Claude Beaujour. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se retrouve. Au revoir, bon appétit. Et dans un instant, on se retrouve sur Sud Radio avec André Bercoff. Et moi, je vous dis rendez-vous demain dès 10h. Très belle journée.
Merci.